On transforme des bons élèves en futurs managers. Parmi les cadres aujourd'hui en France, il n'y a aucun déni des inégalités. Ce sont les données du baromètre d'opinion de l'Adresse. On a 80% des cadres qui vont considérer que les inégalités ont fortement augmenté au cours des dernières années et qu'elles vont continuer à le faire. Mais simplement, quand on regarde depuis 2000, le baromètre d'opinion de l'Adresse, c'est depuis 2000, et qu'on pose la question des causes de ces inégalités, tout a changé.
Camille Peny, sociologue.
Il y a 20 ans, les explications qui étaient mobilisées par 60% des cadres, du public comme du privé, c'était les inégalités sont dues au hasard de la naissance ou au hasard des circonstances. Aujourd'hui, 20 ans après, c'est peu finalement, on a 60% des cadres qui vont considérer que ce sont des différences de mérite individuel. Et donc, il y a eu indéniablement une progression des logiques individualisantes au détriment des discours qui auraient pu inscrire ces parcours individuels au sein de déterminations sociales ou politiques plus larges. Et il me semble que c'est important politiquement d'en prendre la mesure. Quand on essaye de comprendre pourquoi les classes moyennes supérieures adhèrent de manière accrue à ces principes de concurrence individuelle, de mérite de responsabilité individuelle. Il y a leurs origines sociales, il y a un embourgeoisement relatif des classes moyennes supérieures qui éloigne le souvenir des valeurs classiques de la gauche et du mouvement ouvrier. Et il y a aussi les conditions de formation de ces classes moyennes supérieures. On voit bien comment dans l'enseignement supérieur, la part croissante des écoles de commerce, des écoles de gestion au détriment de l'université contribue à forger ces dispositions, comment on transforme des bons élèves en futurs managers tout à fait acquis à ces préceptes. Et puis il y a aussi toutes les transformations dans le monde du travail qui vont vers une forme d'individualisation extrême de la relation de travail. Par exemple, notre collègue Scarlett Salman qui parle d'un tournant personnel du capitalisme où nous devons tous devenir des entrepreneurs de nos carrières, être coachés individuellement pour révéler nos potentialités. Tout ça joue, toutes ces socialisations familiales, toutes ces socialisations scolaires et professionnelles jouent pour permettre la pénétration de ces grilles de lecture individualisantes.
Micro.
Mais je connaissais pas du tout cet endroit, moi. Ici, à la forêt. Hein.
Exactement. C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, donc qui est géré pour le moment par Comuna. Alors, ça n'a rien à voir avec ma casquette Ligue des droits humains, mais donc il y a ce côté. Je travaille dans une association qui travaille en deuxième ligne. Je suis bénévole à Ligue des droits humains. Et puis, j'ai aussi un temps partiel, on va dire, comme artiste. Et donc, ici, on est dans un tiers-lieu qui. Pour la plupart, ce sont des lieux artistiques, justement, de résidence ou de répétition. Et il y a Belle Réfugiée aussi, et l'ONE, donc ici à Forêt. Ça s'appelle la Marelle.
Ouais, ça, c'est un lieu qui va disparaître ou non?
Alors, c'est toujours voué, en tout cas, à être fortement transformé, disparaître en partie, donc déjà depuis plusieurs années. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça appartient à la région bruxelloise. Et donc, c'est une sorte de collaboration communale, région bruxelloise, commune de Forêt, sur le fait que c'est une ancienne distillerie qui doit être rénovée, parce que c'est un très beau bâtiment, et une partie qui doit être détruite parce qu'elle est en moins bon état, et qui longe la voie ferrée, qui va de la gare du Midi jusqu'au Wills, magnifique marais Wills, voilà, qui fait débat pour sa protection, et aussi la mobilité jusque-là, dire tiens, ça peut être intéressant, une piste cyclable qui va de la gare du Midi jusque-là, et à la fois, c'est peut-être moins calme pour les habitants, que ce soit animaliers ou humains, du Marais. Donc voilà. Mais donc on est là-dedans, en tout cas.
De toute façon, moi, je dis toujours, hein, avant, enfin, toujours, c'est pas vrai, mais qu'avant de se pencher sur le mobilier, tu vois, sur la matière, sur les pistes cyclables, il faut d'abord se pencher sur les humains, hein, tu crois pas?
Ben oui, surtout que sur les humains, sur l'animal, sur le vivant, et dès qu'il n'est pas un petit peu cartographié, montré, typiquement ce marais Wills, vu que c'est arrivé un peu artificiellement, enfin pas un peu, c'est arrivé artificiellement, c'est une nappe phréatique qui a été éclatée suite à des travaux, du coup sur les cartes, il n'apparaît pas ce marais, alors qu'en fait ça fait 20 ans qu'il crée un écosystème énorme, et avec des migrations d'oiseaux, vraiment un biotope incroyable, mais aussi de l'humain, des personnes sans abri qui ont fait leur maison devant. Et donc, ça non plus, on ne cartographie pas où sont les personnes sans abri. Quoi.
Mais quoi, pour clore le sujet, ici, c'est un lieu alternatif comme ça, j'imagine, où les gens s'entraident, ou bien pas du tout. Je veux dire, il y a des petits loyers, non? Il y a des salles pour répéter, alors, tu disais
C'est le principe de Comuna, c'est-à-dire que c'est un lieu, s'il n'y avait pas Comuna, a priori, il y avait de grands risques qu'ils soient juste abandonnés, ils soient squattés, ils soient incendiés, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat du squat, mais de dire, tiens, pour un service public, c'est toujours intéressant que ce ne soit pas un squat qui s'y fasse de manière complètement désorganisée.
Un squat aussi, c'est chouette, hein, ce n'est pas obligé qu'il y ait le feu. Hein. Voilà,
je te donne le point de vue du service public, la plus grosse du service public, donc ce n'est pas mon avis. Donc, c'est dans cet entre-deux que du coup, Comuna se met souvent, et d'autres organismes comme ça, en disant, bah, tiens, nous, on peut être intermédiaire, des architectes, des gens qui, plus avec une vision anthropologique, urbanistique, de dire, bah, on peut en faire un lieu alternatif, d'habitat parfois, artistique, culturel. Et en l'occurrence, ici, tu as quand même l'ONE, comme une institution assez connue, Belge Réfugié, qui donne, si je ne dis pas de bêtises ici, ses cours de langue, je pense, et aide pour les enfants. Et alors, des ateliers plus artistiques, où tu payes en effet un petit loyer avec des petites parts. Donc, c'est pas vraiment le côté alter, tu vois, il y a de l'entraide, etc. C'est un lieu vivant, c'est pour ça que c'est à la Marelle, donc c'est un peu cité d'enfants, parce que même les lieux artistiques sont liés de près ou de loin au côté enfance, petite enfance du quartier, ici derrière, qui est un côté plus populaire de forêt, et donc avec les enfants, du coup, aussi des réfugiés ici derrière.
Allez, on se rend compte précisément pour ça, quoi. Sur, vas-y, démarre le truc, parce que toi, tu connais bien alors le sujet.
Ben, malheureusement, je le connais bien. C'est ça qui est pas simple quand on travaille sur les questions des droits économiques, socioculturels. C'est le nom exact de la commission dans laquelle je suis et que je préside encore pour quelques mois, dans la Ligue des droits humains.
Bénévolement.
Enfin, je sais pas, c'est vraiment une fierté spéciale.
Oui, mais ça veut dire que j'imagine quand on est bénévole, après je me trompe peut-être, on est peut-être plus libre aussi. Ouais. S'il y a quelque chose qui va pas, on peut le dire, quoi, non?
Ouais. Alors je sais pas si on peut plus le dire. Moi je le vois plutôt comme un avantage à la Ligue, c'est-à-dire que c'est assez clair, c'est-à-dire que qu'on soit employé ou bénévole, il y a une ligne de la Ligue, parce que c'est très facile. Si jamais à un moment on fait un petit pas de côté en tant que bénévole ou travailleur d'ailleurs par rapport à une certaine presse, où on dit quelque chose à un politicien, ben, évidemment c'est pas juste Sébastien qui parle, c'est la Ligue, et du coup c'est facile d'après rétamer la Ligue en disant la Ligue est trop ceci ou est trop cela. Donc on doit faire attention, on a une certaine ligne, mais très respectueuse, très dans la discussion, très collégiale. Par contre, pour répondre à ta question sur le fait d'être bénévole, ben, en fait, comme tout mandat que tu as dans un... Ici, ce n'est pas un CA, il y a aussi un CA, mais comme dans tout mandat dans un CA, dans des coopératives, etc., il y a avantages et désavantages à être bénévole. On va dire que voilà, tu es élu. Alors bon, j'étais le seul candidat, hein, mais tu es élu, il y a une espèce de confiance qui est donnée là, et tu n'es pas, c'est pas ton boulot à temps plein. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de boulot à temps plein. Et que ce soit moi ou les autres bénévoles qui sont au sein de la Ligue, plusieurs centaines, parce qu'il y a plus une dizaine de commissions, ce sont des gens qui ont déjà un boulot lié de près ou de loin avec le sujet pour lequel ils viennent. Donc, ils sont soit avocats, soit juristes, soit spécialistes là-dedans ou là-dedans, ou s'y intéressent. Et du coup, ils amènent leur expertise comme ça, bénévolement, avec cette facilité de se dire aussi, ben voilà, là, je ne viens pas à cette commission-ci, on ne va pas te taper dessus parce que tu n'es pas venu à cette commission-là. Président, ben là, il y a un peu plus d'exigence parce qu'il vaut mieux que tu sois là à chaque réunion. Mais voilà, ça laisse en effet ce statut... on attend quelque chose de toi sur une durée limitée. Et voilà, si tu ne sais plus, tu ne sais plus. On n'est pas des surhommes et des surfemmes.
Okay. Bon, on parle de cette réforme du chômage, alors, qui a lieu là, en ce moment, ouais. Puisqu'on est au mois de janvier, là, 2026. Ouais. Alors,
ce n'est pas très joli. Hein. Ben, évidemment, si on parle timing, on pense tout de suite à ce qui se passe là, maintenant. Je sais... Évidemment, on a 50 minutes, on pourrait le faire pendant 2 heures, mais on pourrait remonter à loin historiquement aussi pour pas juste dire c'est là maintenant qu'il se passe un truc.
Mais oui, mais explique-nous qu'on comprenne, parce que.
Le problème, c'est que si on dit il se passe juste un truc, on risque d'être juste sur ce qu'on entend le plus pour le moment, c'est ah, ben c'est chômeur à vie, il fallait bien arrêter ce chômage à vie. Ça, c'est ce qu'on entend si on fait juste un focus sur là maintenant. Donc si on va en arrière, on commence à aujourd'hui, on pourra parler de après aussi. Si on commence à aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est que la Cour constitutionnelle a répondu à une demande d'une quinzaine d'associations et une dizaine de requérants, donc des individus, qui disent ceci, on fait un recours en annulation à la Cour constitutionnelle. Pour rappel, ce sont 12 juges, bon là il y en avait 10.
Autant.
Ah ouais, ben, j'ai envie de dire peut-être autant, heureusement, parce que justement il y a cette pluralité d'avis. Alors on dit, est-ce que le droit est neutre ou pas? Ben, il ne l'est pas vraiment, mais pour essayer d'avoir en tout cas une certaine objectivité, Il y a une dizaine de juges avec une personne qui est en charge spécialement du dossier, mais une discussion à 10 ou à 11 ou à 12. On va pas se mentir, avec des juges qui soit sont encartés, donc ils sont soit ils viennent d'un parti politique, soit ils sont connus pour être proches de tel parti politique, donc parfois des anciens parlementaires. Donc ce n'est pas caché et ils font même gaffe d'ailleurs que la répartition de ces juges soit plus ou moins en miroir de ce qui se passe au Parlement. Donc quand la NVA a commencé à monter au niveau du Parlement fédéral, quand il a fallu remplacer un juge, parce qu'on est juge jusqu'à soit de sa mort, soit de sa retraite, quand on remplace un juge, on regarde un petit peu le Parlement, le paysage politique, et donc s'il est plus à droite, il y a un nouveau juge de droite. Quoi.
Ah, ça veut dire que les juges, les 10 juges, là, c'était pas genre la règle, il faut qu'il y ait un petit peu de tout quoi, pour avoir un vrai débat.
Alors, en soi,
c'est ça que je comprends.
Oui, il y a un petit peu de tout, parce que le Parlement, il y a un petit peu de tout, mais pas de manière égale. C'est-à-dire qu'en effet, vu que la proportion au Parlement actuel aussi bien... Donc, par contre, il y a une égalité par rapport à francophones, néerlandophones, ça oui. Par contre, en termes de proportion droite-gauche, c'est en fonction de ce qui se passe au niveau des votes et donc du Parlement, pour ceux qui ont voté. Et donc, on leur a demandé deux choses, en gros, là, actuellement. C'est, on veut annuler des parties de la loi... qui, je ne vais pas aller rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, le plus gros problème, c'est que là, ici, en janvier 2026, il y allait avoir plus de 100 000 personnes qui allaient être exclues. Il y en a beaucoup plus que 100 000 qui vont être exclues au total.
En Belgique ?
En Belgique, tout à fait. Mais sur le premier semestre, on va dire plus ou moins de janvier à juin, il y en avait plus de 100 000 qui, pour nous, au-delà du fait qu'on est contre ces exclusions, qui allaient être exclues de manière encore plus violente, parce que très rapidement. C'est-à-dire que la loi, elle a été votée fin juillet 2025. Elle est passée au moniteur belge fin juillet, en fait. Et donc, 6 mois plus tard, ces exclusions commencent. Donc, si les gens n'ont pas suivi le vote de la loi, ils ont reçu un papier, s'ils l'ont reçu, en septembre, octobre, novembre, disant, en fait, on vous avait dit que, pas que vous avez un chômage à vie, mais qu'en gros, vous avez tel montant chaque mois, si vous respectez, si vous venez au rendez-vous, si vous êtes contrôlé. Donc, ce n'est pas juste le chômage à vie. Et puis tout à coup, ils ont un papier en disant « Ah non, non, on a changé d'avis. En fait, en janvier, vous êtes exclus. » Et donc, on leur dit déjà, ça pose problème. Ça pose problème pour les gens en plus qui sont en cours de formation, pour lesquels l'ONEM a dit « Oui, 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 vous pouvez avoir droit au chômage et suivre votre formation. Vous êtes proche de la retraite. Vous êtes jeune et vous avez droit à ce qu'on appelle une allocation d'insertion sur base de vos études, qui d'habitude était de 3 ans. C'était déjà limité dans le temps depuis Di Rupo. Enfin, depuis Di Rupo, depuis la loi qui est passée sous Di Rupo, qui a limité dans le temps ces allocations. Donc, soit fin de secondaire, soit fin des études supérieures, normalement on a droit à 3 ans. Hop là, ça passe à 1 an. Et donc en fait ici en janvier, je pense plus de 40-50% des gens exclus en janvier sont pas, on va revenir sur le côté chômeur profiteur, chômeur à vie, etc. Mais c'était, je critique ce terme-là, mais même imaginons qu'on y croit, ce sont en gros la majorité de jeunes en fait sur base de leurs études, donc ils n'ont pas eu le temps d'avoir un chômage à vie, donc déjà ça pose grandement souci.
Ils n'ont pas eu le temps de profiter.
Voilà, exactement, et en plus ils ont souvent travaillé des petits boulots, mais pas assez accumulé d'heures pour avoir droit à un chômage plus long. Et en gros on a dit ça pose souci, on a réannulé ça. Et il faut savoir que la Cour constitutionnelle, il faut plus ou moins 1 an pour annuler même des parties de loi. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a 40 ans, quand la Cour constitutionnelle existait déjà, ça prenait beaucoup moins de temps. Ce qui montre qu'en fait, il y a de plus en plus de recours. Et donc, il y a une droitisation qui fait qu'il y a aussi un réseau associatif qui fait plus de recours parce qu'il y a de plus en plus de quoi faire un recours. Bref, ça prend du temps. Et donc, on fait pas juste une demande d'annulation, on fait une demande de suspension. Et donc, ça, c'est dire, c'est tellement urgent qu'il va y avoir des dommages irréparables sur des gens. On n'a pas le temps d'attendre 1 an. Pour ça, ça, ça et ça, et on vient avec des exemples concrets, avec 9 requérants qui disent « moi, je suis en formation, moi, j'ai un crédit, moi, j'ai telle aide à l'emploi, etc. »
C'est ça, les requérants, ce sont des personnes qui vivent les situations, quoi.
Exactement. Alors, on ne va pas les entendre au moment de la plaidoirie, c'est les avocats qui vont les défendre, mais leur témoignage est dans la plaidoirie, est dans le texte. Et c'est ça qui a été rejeté, en fait. C'est-à-dire que nous, on prouve qu'il y a un dommage irréparable, c'est-à-dire, c'est pas... Parce qu'une réduction de droits sociaux, c'est sûr qu'il y en a, parce qu'il y a un changement de conditions. Et c'est ça qui va être analysé suivant la Constitution, par exemple, ce qu'on appelle le standstill, donc le fait qu'il y a un recul des droits sociaux, qu'il y a des discriminations sur les femmes, que pourquoi telle formation, on peut avoir droit au chômage, et telle autre. Donc, et là, ça demande du temps, vu qu'il y a beaucoup de recours, suivant les articles de la Constitution. Ça, c'est dans 1 an. Mais là, on dit par contre, on est sur les cas des individus. Vous voyez, cette personne, elle ne va plus pouvoir se payer son loyer, elle va peut-être être à la rue. Cette personne, elle ne peut plus suivre cette formation, etc., etc. Et là...
Oui, je comprends. Il y a deux options que vous avez choisies pour contrer cette...
C'est pas qu'on les a choisies. Elles sont toutes les deux faites. Donc, il y a une demande d'annulation. On les a faites en même temps, la demande d'annulation sur cette première période, on va dire. C'est juste que la Cour a dit, oui, ben, on va prendre notre temps. Et sur la suspension, là, par contre, ils devaient répondre au plus vite, vu que c'est une suspension. Et là, ils nous ont dit, ben, sur les individus, on peut vous dire que pour nous, c'est très subjectif, nous, juges, on trouve que ce n'est pas irréparable, qu'en gros, il y a le temps de la justice et le temps de la réparation sociale. C'est-à-dire, ben, vous avez eu l'info, comme quoi ces conditions ont changé. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, loin de là, on est d'accord, mais de dire, bah, en gros, oui, il y a toujours moyen par rapport à un loyer.
C'est eux qui disent ça.
Exactement, exactement. Donc, ils ne se positionnent pas par rapport aux articles de la Constitution. Donc, qu'on soit bien clair, ils ne disent pas que la loi est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle. Ça, on le saura dans un an sur cette partie des 6 premiers mois.
Que la nouvelle règle, plutôt, que la nouvelle règle mise en place.
Exactement. Oui. Et alors, pour finir là-dessus, on va encore faire d'autres recours fin janvier, c'est la dernière limite, sur l'ensemble de la loi. C'est-à-dire que là, on pointait vraiment ce qui se passait pour les 6 premiers mois, parce que c'était urgent et on demandait une suspension et une annulation. Ça marche pas pour le moment, en tout cas la suspension, l'annulation peut-être, mais on va aussi faire des recours, quand je dis 11, sur les syndicats, les associations, les réseaux de lutte contre la pauvreté, les associations féministes, les aînés, sur des, ben, il y a plein de choses dans cette loi qui ne vont pas. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi-même, je ne connais pas la plaidoirie. Et ça, pareil, on aura une réponse dans un an. Mais donc, ça, c'est pour si on fait juste le focus là-dessus, c'est OK, il y a presque un feu vert de la Cour constitutionnelle en disant ça va. Non, c'est pas que ça va, c'est qu'il n'y a pas de dommage irréparable par rapport à aucun.
Je n'ai pas compris ce que tu as dit quand tu as dit il y a un feu vert par rapport à quoi.
En fait, l'image que ça donne quand on l'a vu dans la presse hier, parce que ça a inondé la presse.
Oui, c'est sorti hier aussi. Hein.
C'est sorti hier, qui disent en gros, la Cour constitutionnelle ne rejette pas la loi. Non, c'est pas qu'elle rejette pas la nouvelle loi ou la nouvelle règle, c'est qu'elle rejette la demande de suspension, elle rejette la demande en urgence de suspendre la chose, parce que les gens allaient être exclus maintenant et allaient, pour une partie, se retrouver au CPS. Mais ils vont quand même analyser le fond avec le côté constitutionnel. Et donc, ça donne une impression de « Ah, c'est... » En gros, la Cour constitutionnelle valide cette règle, cette loi. Non, elle ne la valide pas, elle va encore la vérifier. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, je commençais par là, c'était le fait que ce recul historique est nécessaire. C'est-à-dire que, et même géographique, il faut savoir que ce n'est pas un principe comme ça qui vient de nulle part, ce côté, je vais quand même utiliser le mot chômage illimité, c'est plutôt le chômage illimité dans le temps, par le principe, mais encore une fois, il est contrôlé. C'est de la négociation, c'est quelque chose qui a été négocié. Par exemple, ça a été négocié, si je ne dis pas de bêtises, il y a 20-30 ans, entre est-ce qu'on laisse ce chômage plus ou moins illimité dans le temps pour le chômage sur base du travail, hein, pas sur base des études, et où, enfin non, pas, c'était, non, c'était où, à l'époque, où on fait le statut de cohabitant. C'est-à-dire qu'on peut laisser ce chômage un peu plus long que peut-être dans d'autres pays européens, mais on va le contraindre, c'est-à-dire qu'on ne va pas recevoir le même montant si on est isolé, chef de ménage ou cohabitant. C'est unique en Europe, peut-être même unique au monde. Et donc, c'était une négociation gauche-droite de dire, OK, vous voulez bien la droite qu'on laisse quand même un petit peu plus de temps, OK, mais en échange, on sacrifie certains droits. Et donc, en effet, quand on est cohabitant, on ne reçoit pas le même montant que quand on est isolé. Donc, ce n'est pas un truc qui vient comme ça, une originalité belge ou un passe-droit belge. C'était quelque chose qui a été négocié. De même, autre chose qui a été négocié, semi-négocié, mais en tout cas qui joue là-dedans, c'est que même si on dit oui, en effet, si on compare à la France, par exemple, où parfois on peut avoir 2 ans maximum de chômage et puis on tombe sur le RSA, oui, sauf qu'il y a plein d'autres éléments. C'est-à-dire, c'est pas juste la durée, c'est à partir de quand on a le chômage. C'est-à-dire, ce fameux stage d'attente, parfois, ben, il n'est pas le même dans tous les pays. Et donc, par exemple, en France, on peut l'avoir très vite, ce chômage, après les études. Et puis, quels sont les montants ? Quelles sont les conditions ? Et c'est ça qui vient, on ne l'a pas dit assez dans cette réforme et même dans les autres réformes, c'est-à-dire que oui, ils ont augmenté un peu le montant dans certaines conditions pour les 6 premiers mois. Par contre, après 6 mois, ça chute. Et donc, au-delà de l'aspect limité ou pas limité...
Oui, ça chute, mais tu as quand même un montant. Hein,
tu as quand même un montant.
Tu as quand même un montant, quoi.
Et puis en dessous du niveau de pauvreté, dans certains cas. Et donc, tu dis, ben oui, ils ont un montant, etc. Donc, il y a de ça à réfléchir. C'est-à-dire qu'en France, le montant, il reste le même, si je ne dis pas de bêtises. Et il n'est pas différent si tu es isolé ou cohabitant. Donc, c'est un peu comparer des pommes et des poires. Si on compare vraiment, on compare tout. On compare aussi le contrôle, le suivi. C'est-à-dire qu'en France, comment sont suivis les chômeurs, comment est-ce qu'ils sont un peu contrôlés, très contrôlés, enfin voilà. Et donc juste comparer cet aspect limité dans le temps, pour nous, c'est falsifier la réalité. C'est juste dire, bon, on prend juste une partie du problème et il faut résoudre ça. Et par exemple, le statut de cohabitant, on le laisse. On pourrait dire, ben, on limite dans le temps, mais on enlève le statut de cohabitant, par exemple.
Mais je ne comprends pas bien pourquoi tu dis tout ça, en fait. Pour montrer quoi ?
Pour montrer qu'il faut un peu prendre du recul. C'est-à-dire que si on est juste en train de dire, il y a une réforme du chômage qui dit juste qu'en gros, on va limiter dans le temps, point. Parce que, en fait, on était un des derniers pays européens à avoir un chômage illimité. C'est faux. C'est 1% de la problématique. C'est-à-dire que, et surtout la raison pour laquelle ils le font, c'est pas juste que on est le seul pays européen pour, c'est l'argument des partis, et en l'occurrence beaucoup de partis de droite qui soutiennent ça, c'est de dire il y a trop de chômeurs, il faut mettre les gens au chômage, il faut les mettre les gens au travail. Et le fait de sanctionner plus tôt, c'est-à-dire de, en fait, en gros, couper leurs droits après 2 ans maximum, hein, parce que parfois c'est 1 an, c'est le fameux coup de fouet, le principe du coup de fouet. C'est, on te donne un coup de fouet, là, il va être plus tôt que prévu, parce qu'avant, vous pouviez un petit peu rester un peu plus longtemps au chômage, oui, il y avait du contrôle, etc. Je donne leur discours, hein, c'est pas ce que je pense. Maintenant, en vous disant, c'est après 2 ans, après 1 an, voire tout de suite, ben, ça va vous donner un coup de fouet, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand on veut, on peut, et vous allez trouver du travail. Et ça, je ne sais même pas si j'ai besoin de développer, mais de quel travail parle-t-on ? À un moment où on le sait, où il n'y a pas, si on prend toutes les personnes au chômage, enfin en tout cas actives, possiblement employables, et le nombre de postes vraiment en équivalent temps plein, ça ne correspond pas. Et c'est structurel, c'est comme ça depuis 40 ans, 50 ans. Donc pourquoi tout à coup...
Sébastien, ce que je comprends, c'est que tu dis que ça n'existe pas le chômage illimité. Il y a toujours eu des conditions, ouais. Ça a toujours été un rapport de force. Exactement. C'est ça que tu dis, en fait. C'est pour ça que tu développes tout ça.
Oui, ce côté illimité, on pense illimité dans le temps, mais c'est aussi illimité dans, je ne sais pas si on peut dire ça, illimité dans les conditions, en gros, le chômage facile, quoi. C'est l'oisiveté, c'est le chômeur profiteur, on ne nous dérange pas. Alors oui, on va toujours connaître un cousin Gaston ou une tata Ginette qui n'a pas été assez contrôlée, qui peut-être travaille au black à côté, qui manque ça. Ça, c'est toujours l'exemple qu'on va trouver en soirée et qui va justifier, et j'entends ce genre d'exemple de la bouche de certains députés hein, fédéraux, et qui va justifier du coup qu'en effet, c'est 150 000. Et moi, je ne rentre pas dans le débat du mauvais pauvre, du faux pauvre, hein, du vrai pauvre qui fait les efforts et le faux pauvre qui ne fait pas d'efforts. Je ne suis pas là. C'est pour moi vraiment un tir de bazooka. C'est une des plus grosses réformes les plus violentes depuis 50 ans. Pour de nouveau une mouchette qu'ils appellent fraude sociale, qui est minuscule, qui ne compare jamais assez à.
Ils virent les pauvres, quoi. En gros, allez hop, tous ceux qui ne sont pas adaptables, qui sont malades, qui sont fragiles, qui sont. C'est tu ça. Vois, allez hop, on les vire. Oui.
Et donc, il y a une méconnaissance. Il y a une énorme méconnaissance sur l'historique, c'est pour ça que je le faisais un petit peu, sur l'activation qui existe depuis 20 ans, sur les contrôles qui existent depuis 20 ans, sur combien de chômeurs il y a, combien de postes il y a. Il y a une méconnaissance sur, OK, quelqu'un, ben, tout, il y a, je vais le citer, Maxime Prévost quand même, qui dit, mais de toute façon, on vit dans un pays où il y a toujours quelque chose pour sauver. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus de droit au chômage, mais ils auront droit au CPS. On peut aller sur le débat après sur le CPS. Mais non, c'est faux. Il y a plein de gens qui n'auront pas droit au CPS parce que les conditions ne sont pas les mêmes. C'est le fameux statut de cohabitant, sur le fait qu'on va prendre en compte les revenus de l'autre. Donc déjà, il y a des choses fausses. Les gens ne savent pas ce que c'est le CPS et quelles sont les conditions pour y avoir droit. Quand bien même les gens ont droit au CPS, c'est pas facile d'aller au CPS, c'est pas facile pour les travailleurs sociaux de recevoir là ce nombre de personnes énormes d'exclus du chômage. Et donc, les contrôles sont beaucoup plus insidieux dans le... Enfin, je ne juge pas les travailleurs sociaux là qui sont en CPS, mais le principe même de la loi, des lois CPS, fait qu'on va beaucoup plus dans la vie privée des gens. Les montants ne sont pas les mêmes, etc. Donc, ce n'est pas pareil que le chômage. Et il y a des études qui sont bien montrées que ce fameux coup de fouet dont je venais de parler... Mais il ne fonctionne pas. Enfin oui, peut-être fonctionner pour quelques personnes, disons-le. Il y a peut-être des personnes pour qui ça va tout à coup les réveiller, si on imagine qu'il y a des gens qui sont endormis. Mais la grande majorité, ça ne fait pas cet effet-là. Au contraire, ça t'appuie, ça t'enfonce encore plus. Et puis, de toute façon, de manière statistique, on ne peut pas créer de l'emploi comme ça par coup de magie. Tout le monde ne va pas devenir indépendant et créer son propre emploi. Donc, où on va le trouver ? Et même ceux qui le trouvent, parce qu'ils n'ont peut-être même pas le choix, parce qu'ils n'ont même pas le droit au CPS, c'est quel type de job, quoi ? Travail de merde, travail dans des mauvaises conditions, enfin voilà. Pour quel argent ? Je ne dis pas que du coup, il ne faut pas en chercher, mais c'est de nouveau, qu'est-ce qu'on propose finalement comme emploi ? Et la méconnaissance, du coup, c'est aussi sur le profil des gens. Si on dit, bah, il suffit de faire des études, ça, c'est vraiment le gros préjugé qu'on a aussi. En fait, en 50 ans, je pense de mémoire qu'avec la démocratisation de l'accès à l'enseignement, il y a eu 4 fois plus, je pense, de personnes qui ont fait des études supérieures et qui sont diplômées. Et du coup, 4 fois moins, qui restaient au niveau, en dessous du CESS. Super, les gens ont plus de diplômes. Mais en fait, est-ce qu'il y a des jobs qui correspondent à ces niveaux master, par exemple ? Pas en suffisance. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est que ces personnes qui ont le niveau master, ben, il n'y a pas assez de jobs avec le salaire qu'ils imaginaient. Donc, ils prennent des jobs de niveau bachelier, voire en dessous, avec parfois des aides à l'emploi. Moi, après 6 mois, alors que j'ai un niveau master, ben, j'avais droit un statut de chômeur longue durée qu'on appelle ACS avec certaines adaptations qui fait que donc voilà on a des aides à l'emploi nous-mêmes alors qu'on a un niveau master. Du coup on prend le job de personnes qui peut-être n'ont pas leur CSS ou ont le CSS tout juste et ces personnes-là n'ont pas les jobs et donc on leur dit ah ils n'ont pas fait d'études donc on voit que c'est pas ça le problème. Ah, ils ne sont pas qualifiés, ben, ce n'est pas ça le problème non plus, c'est la question de la qualité des jobs et le fait qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et donc ça, je pense qu'il y a une méconnaissance, c'est complexe, hein, on est d'accord, c'est complexe. Donc peut-être que monsieur et madame tout le monde n'a pas tout ça en tête au moment où elle voit juste « Ah, chômeur profiteur, on est le seul pays qui… » Mais quand même, pour de la part de députés et de ministres, est-ce que c'est du déni, de la méconnaissance, trop rapide, parce que ça a été extrêmement rapide, hein. L'Arizona est venu en janvier 2025, il n'y a jamais une réforme aussi rapide.
Oui, mais… C'est politique. Ouais. Avant tout, c'est politique parce qu'il y a Di Rupo, qu'il y a maintenant, Di Rupo, c'était en quoi? En 2015?
2015. Donc, en fait, de mémoire, c'est intéressant parce que c'était en 2012 que le gouvernement Di Rupo a annoncé ça. C'est pour les allocations d'insertion qui étaient donc illimitées dans le temps, si je ne dis pas de bêtises, sont passées à 3 ans. Donc, ils ont dit ça en 2012. Donc, tout comme on était contre cette réforme-là, donc les personnes qui sont sur chômage sur base des études, Au moins, il a attendu 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2012, ils ont annoncé ça en disant, voilà, à partir de maintenant, 2012, sachez que dans 3 ans, votre chômage va s'arrêter. Ça a été violent aussi, mais il y a eu au moins le fait d'attendre cette fin de durée.
Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est ça aussi, c'est ça qu'on perd pied. Tout ce qui est, moi, je connais, j'ai pas une grande culture de la gauche, mais je veux dire, l'histoire raconte avec un grand H que quand même, c'est pas du tout ça, quoi.
Non.
Je veux dire, quand on voit Magnette maintenant qui dit que ça ne redeviendra plus jamais une allocation illimitée, le type aussi, il parle mal, quoi, tu vois. Il est censé représenter
certain.
Il représente quoi, en fait?
Mais ce qui est certain, je ne vais pas me prononcer sur Magnette, mais il y a des gens de gauche, que ce soit dans des partis, dans des syndicats, qui sont d'accord avec cette réforme. Et je ne sais pas dire pourquoi exactement au cas par cas, mais je pense qu'il y a des gens, donc je ne vais pas parler là des politiciens parce que ce n'est pas leur cas, mais je pense qu'il y a des gens dans des travailleurs sociaux, dans des syndicats, dans des structures sociales, qui, a priori, on imagine de gauche, qui sont aussi eux-mêmes malmenés en travaillant. Qui sont parfois les travailleurs pauvres, qui subissent en tant que travailleurs sociaux la violence des usagers et qu'on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule, c'est l'institution qui est violente sur les usagers qui sont violents sur les institutions, et donc qui disent ben, « moi je trime, j'ai donc, du mal, je suis mal payé, donc celui qui ne travaille pas, entre guillemets, ben, quand même il en profite un peu ». Donc c'est le fait d'être dans la même galère finalement, d'être dans le même bateau, d'être les mêmes victimes, or on se tape dessus. Et donc ça prend le temps de montrer que c'est plus complexe que ça, évidemment. Mais par contre, en effet, je te rejoins, de la part de politiciens, pour moi, c'est inacceptable.
Non, mais via les médias aussi, tu vois, c'est ça aussi qui est terrible, c'est que ça va tout va ensemble, en fait, tu vois, et ça va devenir important et vital d'avoir des autres manières de parler. Enfin, on n'attaque plus, nous, la gauche, quoi, tu vois, allez, avançons. Mais évidemment, comme il y a traîtrise, enfin, c'est comme ça que je le vois, heureusement, il n'y a pas que moi, hein. Mais je suis assez d'accord avec cette analyse, quoi. Comme il y a traîtrise, eh ben, ça patine, en fait, tu vois, ça va dans le mur, quoi.
Alors, ça va dans le mur, ça accepte des erreurs. Donc, Clara Inval a fait des grosses erreurs de statistiques, de quand il parle des étrangers, il a confondu des chiffres et tout, il s'est à peine excusé. Pour ce genre d'erreurs, il aurait dû démissionner, disons les choses. Enfin, je veux dire, il y a des ministres qui ont démissionné pour moins que ça. Donc, des erreurs à peine assumées. donc parfois des choses qui ne vont pas, que ce soit au niveau du discours, que ça aille du côté gauche ou du côté de la droite, mais aussi des silences qui sont pour moi assez révélateurs de choses. Donc disons les choses, donc moi en tant que président de la Ligue des droits, pas de la Ligue des droits humains, de la commission de la Ligue des droits humains, on a proposé, en tout cas aux députés des partis fédéraux donc francophones, de les rencontrer.
Quel genre de parti ?
À tous les partis, donc MR, les engagés, PTB, écolo, j'en oublie un, PS, voilà. disons les choses. C'est pas... tu vas me dire que j'ai fait un acte manqué, c'est ça ? Non, ils nous ont très bien accueillis. Bon, disons les choses, le MR, après 3 mois, nous a toujours pas répondu. Du coup, on va se douter de quel parti je parle. En tout cas, il y a du coup un des partis de la majorité qu'on a rencontré, très bien accueilli.
Mais rencontré pour quoi faire ?
Pour réfléchir par rapport à ces réformes. Donc, on les a déjà rencontrés en sachant que les réformes allaient avoir lieu, chômage, CPS, etc. Donc, avant que l'Arizona se mette en place, il y a déjà des annonces de la part de la NVA, un peu de la part du MR, cette question du chômage. L'allocation de chômage qui allait être mise en question, mais aussi par rapport à la question de CPS. On sentait qu'en gros, il y a deux grandes lois au niveau des CPS, qu'elles étaient déjà mal appliquées, mal comprises, et donc on avait nous-mêmes en tant que Ligue dit voilà comment on voudrait réformer la loi du droit à l'intégration sociale, avec des vœux qu'on avait faits pour la loi de 2002, et on avait envoyé ça à tous les parlementaires, zéro réponse, et donc dit on veut vous rencontrer. Bref, on a été assez bien accueillis, disons les choses, pour ceux qui nous ont accueillis.
Quoi, vous avez eu des chips, du coca, ça veut dire quoi quand tu dis c'est normal qu'ils accueillent les gens de la société civile, non ?
Disons que oui, disons qu'ils nous ont bien accueillis avec des boissons, etc. Mais, mais accueillis dans le sens qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont pris note, qu'ils ont posé des questions, parce qu'aussi il faut dire les choses, quand des partis de gauche sont, subissent les élections et qui perdent des députés, par exemple, c'est dur pour ceux qui restent. Ils courent d'une commission à l'autre parce qu'ils essaient de faire leur job quand même avec les moyens du bord. Et donc, j'ai pas envie de les encenser, mais de dire, voilà, ils prennent quand même le temps. Ils auraient pu envoyer un associé de parlementaire et tout. Et là, non, la parlementaire nous reçoit, prend le temps, assume qu'elle ne connaît pas bien la matière. Et donc, elle veut nous comprendre, qu'on explique, etc. Donc, je trouve qu'il y a certaines qualités de l'accueil et de l'écoute. Et donc, pour le parti que je serai l'auditeur deviné qui c'est, le parti de la majorité qui nous a reçus, de nous dire, enfin de nous écouter, de nous dire oui, mais nous on est parlementaires, on n'est pas les ministres, on n'est pas ministre. Oui, mais c'est le même parti quand même, enfin voilà, de un, donc je suis un peu étonné. Donc déjà un petit peu se dédouaner, puis dire bon, je connais cousin Bertrand, cousin Gaston, qui lui est un chômeur profiteur, donc je dis bah, c'est un peu léger quand même. Imaginons même que cette histoire du coup de fouet fonctionne, j'en viens aux conséquences. Je dis, on est d'accord que tout le monde ne va pas retrouver un emploi. Statistiquement, je dis oui, c'est vrai. Enfin, la personne dit oui, c'est vrai. Et donc, les conséquences sur la pauvreté, la conséquence sur les personnes qui ne pourront plus payer un loyer, sur le petit propriétaire qui ne va plus recevoir le loyer de ce locataire, sur les éventuelles délinquances dans la rue, parce que les personnes seront dans la rue, sans un sou, les assuétudes, les violences, etc. Et là, la personne de bonne foi me regarde avec des grands yeux en disant « Mais vous avez des chiffres là-dessus ? Vous pourriez nous faire un rapport là-dessus ?» Et à la fois, c'est honnête. C'est honnête de le vide qu'elle a. Et à la fois, c'est terrible, c'est assez affreux, parce que, en l'occurrence, c'est une députée qui n'est pas dans la politique depuis longtemps. Et j'ai dit, ben oui, on va vous en donner. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? On demande d'être... Donc, pendant que la loi est en train d'être votée, donc il faut savoir qu'il y a toujours un processus en première lecture, deuxième lecture en commission, donc il n'y a pas tous les députés. Nous, quand je dis nous, ce n'est pas que la Ligue des droits humains, c'est la Ligue des familles, les syndicats demandent à être auditionnés. D'abord, on demande informellement, on lui dit « Ah non, monsieur Ducarme dit non, je n'ai pas reçu le mail. » Tous les parlementaires ont reçu le mail. Hein. « Je n'ai pas reçu le mail. » Faites une demande formelle via les partis. Les partis font la demande formelle. « Ah non, c'est trop tard. » On est en deuxième lecture, c'est trop tard. Donc, en plein mois de juin, il n'a pas le temps de nous écouter. 2 heures de débat pour voir si on peut venir ou pas. La loi est quand même votée. La loi n'est pas encore votée. Il y a beaucoup, beaucoup d'amendements qui viennent de l'opposition. Qui fait que ça passe de nouveau au Conseil d'État. Le Conseil d'État qui dit on n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps en urgence comme ça de regarder toute la loi. Il y a pas de problème pour cette partie-là, mais cette partie-là, on n'a pas su la lire. Tant pis, au forcing, il faut qu'avant le 21 juillet, cette loi passe. C'est une question de principe. C'était vraiment la victoire de la NVA. Elle est passée, comme tu le sais. Et on dit là, bon, on va redemander une audition, mais pas sur la réforme du chômage, sur les réformes. Donc, ce n'est pas sur une loi précise. C'est dit, on veut être auditionné en tant que Ligue des droits humains sur les conséquences de cette loi chômage, sur les lois qui sont déjà votées au niveau CPS, sur les lois qui vont être votées. Non. Donc, évidemment, les partis de l'opposition, enfin, évidemment, tant mieux, les partis de l'opposition nous défendent, argumentent. C'est une association qui demande d'être auditionnée. L'EMR dit... On n'a pas besoin de la Ligue des droits humains. Si on veut les entendre, on peut aller les entendre. Petite parenthèse, on vous a demandé de vous rencontrer, vous ne nous avez jamais répondu. La NVA dit pareil, on n'a pas le temps pour eux. Et donc, il n'y a pas de loi, on vote. Hein. C'est juste on doit travailler et qu'on n'a pas besoin d'eux. Donc, 10 minutes. Hein. Et Voreut, silencieux. Les engagés, silencieux. Ils étaient là hein, et ils ont voté contre. Ils ont voté contre le fait d'entendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes la Ligue des droits humains pour donner l'expertise du terrain. Donc, ce n'est même pas que la nôtre. C'est l'expertise aussi de ceux qui, et celles qui sont dans la commission qui nous rapportent que c'est la catastrophe déjà maintenant et que ça va l'être encore plus suite à ces réformes-là, pas que celle du chômage. Donc non, taisez-vous, on n'a pas besoin de vous entendre. Et donc, pour revenir à ta question sur que savent-ils, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, qu'est-ce qui est de l'ordre du déni, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypocrisie, là on peut ne pas taxer d'hypocrite quelqu'un, c'est Bardeweaver. Il est très clair, il dit que c'était la meilleure réforme de l'État qu'il pouvait faire. Il n'a pas fait une réforme d'État, en fait, il l'a faite via cette réforme du chômage, c'est-à-dire que où y a-t-il le plus de chômeurs et chômeuses pour le moment? À Bruxelles et en région wallonne. Donc, d'office, cette loi, ce changement de loi va plus impacter ces régions-là. En plus, enfin, le plus d'habitants en tout cas. En plus, si la personne a droit au CPS, les CPS, ils sont gérés par les communes. Oui, il y a de l'argent pour le revenu d'intégration sociale, une partie qui vient du fédéral, mais en gros, quand même, le bâtiment, une grosse partie des travailleurs sociaux, toutes les aides sociales qui ne sont pas revenu d'intégration sociale, c'est payé principalement par le budget communal. Donc, plus une commune a des habitants pauvres, moins elle a d'argent via ses impôts sur la personne, plus elle a d'usagers possiblement qui va arriver chez elle, et donc ces communes vont être de plus en plus pauvres. Donc, il va encore plus appauvrir Bruxelles et la région wallonne, sauf si ces chômeurs profiteurs se bougent le cul, soi-disant. Mais il sait que statistiquement, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Donc, voilà, en l'occurrence, on ne peut pas les traiter d'hypocrites. Il est très clair. Il voulait aider. Pour faire venir la boucle, je peux le croire, finalement, cette députée, en partie, quand elle dit oui, mais c'est les ministres qui ont décidé, elle n'était sans doute pas là au moment de la négociation. Mais en attendant, il y a des présidents de CPS qui sont MR. Qui sont engagés, qui sont Voreut, qui disent mais là on est en train de subir, qu'est-ce que notre propre parti a fait, même des NVA, hein, et donc ils, et qui ne sont pas d'accord, et qui font j'ai perdu le mot, mais en tout cas au niveau communal, qui font des annonces en disant à l'unanimité on est contre cette réforme du chômage en tant que MR. Donc il y en a qui en prennent conscience, mais là-haut soit ils en prennent pas conscience, soit ils le font, mais ils vont pas devoir eux subir les conséquences.
Ben, en tout cas, moi, ce que je comprends et ce que j'entends, et sans être dans les... Comme toi, peut-être plus proche de tout ça, quoi, plus proche du pouvoir et de ce qui se joue, c'est que clairement, c'est une vision du monde, quoi. Voilà, allez, hop, on avance, on profite que c'est la droite, là, en lien aussi avec l'extrême droite, on y va, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Et... Oui, en effet, on se demande... Où est passé les gens qui défendent, mais je crois que ça fait déjà plein d'années que c'est fini, on ne défend plus les petites gens, on n'a plus une vision du monde comme ça, tu sais, où on défend, où on sait que si on est pauvre, ben, y a de grandes chances qu'on le redevienne. Enfin, c'est pas comme ça, en claquant des doigts ou en soi-disant travaillant, enfin, ça c'est du conte, ça, c'est dans les films, des bêtes films américains, non? Ouais. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Parce qu'il suffirait de travailler, de changer sa condition. Allez, en avant, un petit peu de courage, on se prend en main et en avant, c'est fini tout ça. Parce que c'est cette vision-là, là, ultra libérale, qu'on met en place, hein, et que monsieur, madame, tout le monde, s'il prend pas le temps un peu de réfléchir ou s'il a pas. Parce que moi, je pense aussi qu'il faut du cœur, quoi. Enfin, tu vois. Enfin,
Alors, soit tu as la chance d'être entouré de gens qui t'expliquent. Qui t'explique le monde, qui t'explique comment ça fonctionne, t'as des chouettes profs qui t'expliquent... Moi, je veux dire, si j'avais pas eu Oui, des amis, des profs qui m'avaient un peu expliqué en sortant de mon collège catholique, où sans doute la plupart des enfants ont des parents qui travaillent. Je ne savais pas ce que c'était un syndicat, je ne savais pas ce que c'était au chômage. Et donc, par mes études de sociologie, par ma formation en théâtre-action, de côtoyer des gens qui sont dans le monde politique, j'avais déjà ça un peu en moi, mais donc j'ai eu des réponses. Je pense que peut-être j'aurais pu un jour voter centre ou voter droite, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce côté un peu vie ma vie, de se dire, tiens, est-ce que ces ministres, ces gens qui ont voté pour ces parlementaires, est-ce que ces parlementaires, est-ce qu'ils ont déjà été au chômage à un moment? Est-ce qu'ils ont déjà fait des vraies demandes d'emploi où ils espéraient, ils ne l'ont pas eu, ils ont été déçus? Est-ce qu'ils ont vraiment eu des accidents de vie comme ça? Je ne pense pas. Ou si ils en ont eu, en tout cas pour les gens qui ont voté, ils disent oui, mais je m'en suis sorti quand même. Moi, j'ai enseigné pendant 8 ans à des futurs assistants sociaux, assistantes sociales. Et tu dis, ben, c'est des gens engagés et tout. Alors, il y en a, la plupart sont engagés, mais il y en a qui disaient, je suis moi-même étudiante au CPS et j'ai fait des études d'assistance sociale. Donc, vous voyez, quand on veut, on peut.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Il y a toujours des exceptions à la règle. C'est ça le problème. Mais ils ne sont pas cons non plus. Hein. Il y a toujours des exceptions à la règle. Ouais. C'est vrai que des fois, on voit des gens qui viennent d'un milieu très pauvre et puis, voilà, ça devient un peu plus facile pour ces personnes-là. Mais c'est toujours. C'est ça que. Mais bon, le temps il avance et oui, c'est ici hein, le temps il avance hein, dans le micro et oui, c'est cette idée, mais j'avais déjà posé cette question là. Toi qui es un peu dans le milieu militant associatif, où sont tous ces gens avec une vision du monde qui défend les petites gens? Où sont passés tous ces gens?
Alors, ils sont là. Alors.
En tout cas, comment t'analyses le fait que ça se passe comme ça se passe aujourd'hui?
Alors, il y en a qui sont peut-être en burn-out de militantisme, j'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup. La question, c'est comment ils agissent. Alors, il y a 10 000 façons d'agir. Je fais attention à ce que je dis sans être dans juste le critique de « c'est pas bien », etc. Le côté institutionnalisation même de la révolte, de la contestation, en l'occurrence, les syndicats, par exemple, ben, ça peut parfois poser question. Je ne dis pas qu'il faut que les syndicats font mal leur travail, mais c'est certain que lorsqu'on a des syndicats qui représentent les travailleurs et aussi normalement les travailleurs sans emploi, qui sont eux-mêmes mis sous pression, parfois même en interne, qui ne sont pas toujours solidaires, qui, pour des raisons X ou Y que je peux parfois comprendre ou essayer de comprendre, ne vont pas mettre priorité sur ça ou ça, du coup, on peut, en tant que militant ou non-militant qui pourrait se poser la question en disant « oui, mais c'est le boulot des syndicats, ok, le syndicat qui a moins de moyens. » Alors oui, il y a un haut taux de syndicalisation en Belgique, mais pour la moitié, ce sont les gens qui sont syndiqués sont des gens qui sont eux-mêmes au chômage. Donc du coup…
On se rejette la faute, quoi. C'est ça le... Parce que Frédéric… c'est pas Frédéric, c'est Botson, là. Ouais, je ne sais plus son nom. Comment ?
Thierry Botson.
Voilà, maintenant, il a passé la main, là. Oui. Bon, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, de… qui connaît un peu plus de...
Je côtoie beaucoup les syndicats sur le terrain, vraiment ceux sur le terrain qui se battent, qui sont directement en contact avec les personnes, donc qui sont tiraillés entre l'individu et le collectif, parce qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'ils vont être là, présents dans les manifs, dans les préavis, dans les piquets de grève, et à la fois qui sont submergés de demandes individuelles parce que
parce qu'on est dans un monde individualiste.
Mais individualiste aussi, mais
donc
pas...
c'est individuellement qu'on doit aussi régler chaque cas. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que si un directeur vire quelqu'un, ou enfin vire mal quelqu'un, ou met une pression, burn-out, pression, etc., harcèlement, ben là, c'est un accompagnement individuel qu'il faut faire. Et donc, ce délégué, ce permanent, il doit faire les deux. Donc, il est lui-même épuisé. Et donc, il y a le piège de cette institutionnalisation. Heureusement qu'il y a des syndicats, mais dans quelles conditions ils peuvent travailler par rapport à leurs conditions personnel, de comment ils réfléchissent, comment ils fonctionnent, de dire, bon, ça a un peu bougé, hein, mais en fait, toujours garde du nord, garde du midi, etc., ou de réfléchir, voilà, des actions parfois plus créatives, et ils sont ouverts à ça, et c'est pas pour rien qu'il y a eu depuis 10 ans, 15 ans, plein de mouvements qui s'appellent tout autre chose, qui s'appellent comme une colère, qui sont, en fait, même les Antifa, il y a énormément des gens de syndicats dedans. En fait, parce qu'ils ont un pied dans le syndicat et c'est super intéressant, mais ils veulent aussi le faire autrement. Et la plupart du temps, les manifs se font avec les deux, avec les communes colères, avec les antifas et les syndicats, parce que c'est d'autres façons de faire, où il y a peut-être dans les antifas, enfin pas peut-être, c'est certain, il y a plus de liberté, c'est moins structurel, parce que c'est logique en tant que syndicat. Tu as tel mandat à tel et tel endroit, donc c'est de la négociation, et donc c'est pas le bonjour, etc. Et c'est ça qui est compliqué. Je dis pas que c'est la cause qui fait de où sont les gens. Ils sont là, mais parfois ils sont eux-mêmes mis sous pression en interne ou en externe. Ils sont moins financés. Quand tu vois que la mutualité, je vais pas dire laquelle, une des mutualités, ils sont passés de 200 à 20 pour analyser toutes les.
Sérieusement?
Ouais. Pour tout ce qui, quand ils reçoivent les documents, des ordonnances, etc. Dans quelles conditions, du coup, tu es obligé de numériser, donc tu n'es plus à l'écoute, tu n'es plus disponible pour les personnes, les petites gens dont tu parles.
Mais du coup, en parlant comme ça avec toi, oui, mais c'est comme si c'était la bataille, c'était justement ça la bataille, d'arriver à ce qu'il y ait moins de gens, que les gens soient individuels, qu'il n'y ait plus de collectif, que les gens soient plus politisés. Tu vois, comment ça se fait qu'il y a, en échange, il n'y a pas... où sont les nôtres, quoi.
Après, c'est ça que je veux en venir. Il y en a d'autres qui sont là, qui n'y croient plus ou peu... ou veulent mettre l'énergie ailleurs. Quand tu vois les ZAD, quand tu vois les squats, quand tu vois les zones de j'ai oublié le nom, mais bref, pour les personnes sans papier, les squats qui sont faits pour les sans papier, et que donc il y a des personnes qui prennent de l'énergie, du temps pour surveiller un squat, pour qu'il soit sécurisé avant que les personnes sans papier puissent y aller, qui vont aller d'un squat à l'autre. Voilà, ça se fait parfois avec les syndicats, mais souvent sans ou sans les mutuelles, etc. Parce qu'ils disent, on va mettre l'énergie là-dedans, c'est épuisant et j'en fais pas assez partie ou trop peu partie, donc je peux pas assez en parler. Mais en tout cas, ils disent, voilà, là, on va mettre les mains dans le cambouis, comme beaucoup, encore une fois, de gens des syndicats le font. Mais ils disent, voilà, on va pas dans un militantisme institutionnel. Là, on le fait à notre manière et souvent, ça marche aussi, il y a besoin des deux. Et ça, c'est souvent plus invisibilisé. Ou mal dans le journal, on va juste voir un squat a été vidé par la police, il y a eu des violences, mais dans quel journal explique comment se passe le squat, comment se passe la ZAD d'Arlon? Ça s'entend très très peu, du coup.
Oui, mais ça évidemment, je pense que de toute façon, il y a même plein de gens qui sont dégoûtés aussi de l'institution et qui vont plus voter et qui font leur truc et voilà. Mais institutionnellement, moi j'avais plus envie de comprendre, c'est dingue quoi. Même encore aujourd'hui, je veux dire, l'extrême droite est au pouvoir, ça pue l'autoritarisme. Bon, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus rien, on dirait là-haut, tu vois.
Ouais,
il y a plus de contre-pouvoir, quoi, on dirait.
Ben justement, on a fait avec la Ligue des droits humains, la Fédération des services sociaux, les syndicats des magistrats, la presse, etc. Une conférence de presse, ça se fait encore des conférences de presse. Je ne savais pas il y a quelques jours. Sur ça, sur se mettre ensemble sur le fait qu'il n'y a plus de contre-pouvoir parce qu'on le. Soit de l'intérieur, on est sidéré, on est dépassé, on est fatigué, comme tu disais, on n'y croit plus. Et même pour ceux qui y croient, on leur coupe l'herbe sous le pied, on leur coupe leur subside, leur liberté d'expression, leur reconnaissance. Et quand on parle juste de l'état de droit, quand on parle de la Ligue des droits humains, ce n'est pas. C'est pas être hautain, on essaie de rester humble, mais quand on dit Ligue des droits humains, souvent, quand moi j'envoie un mail au nom de la Ligue des droits humains, un président de CPS, hop, au garde à vous, il me répond, quoi. Enfin, il y a un petit truc, les ministres, tout ce qui vient de l'Europe et les amendes pour niveau européen, rien à kicker, quoi. Donc tu dis, tu t'assois sur l'état de droit, quoi. Quand on dit à la ville de Bruxelles, non, votre police ne peut pas faire l'ENAS, ne peut pas faire ceci ou cela, t'as Monsieur Claus qui dit « Je m'assois sur cette décision. » Donc, alors je ne sais plus où l'œuf ou la poule, tu vois, tu dis, ben, tu entends ça en tant que citoyen, militant, tu te dis quoi?
Oui, je m'assois sur cette décision, c'est-à-dire je m'assois sur, après tu dis si je me trompe, sur le fait qu'il y ait des gens qui se sont réunis, qui ont discuté, qui ont pris position, qui se sont battus pour qu'il n'y ait pas le droit de taper des manifestants. Et c'est ça.
Mais c'est sur les gens, mais aussi la justice. C'est une décision de justice. Hein. C'est un juge qui dit que non, la NAS, là, ne peut pas avoir lieu. Donc il s'assoit sur la justice. Donc l'exécutif s'assoit sur la justice. Alors que c'est quand même trois niveaux de pouvoir bien qui sont interdépendants, mais qui doivent être autonomes. Et ça soit aussi sur les parlementaires, parce que la plupart des lois viennent du gouvernement, et donc c'est un processus qui va plus vite, qui est un peu plus flou. Donc sincèrement, à quoi sert encore le Parlement, à part un pouce-bouton dans ces cas-là? Je dis, il sert, hein, mais l'exécutif, là, par exemple, pour faire un rapide lien, le projet de loi Quintin, donc du nom du ministre du même nom, c'est ça qui dit, la loi Quintin, c'est dire, on veut que les ministres aient le pouvoir de dire, cette association-là, elle est dissoute. Mais ça, c'est déjà possible par un juge. Voilà, il y a déjà, le moyen existe déjà. Et donc, de nouveau, c'est de l'exécutif qui dit la justice, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, elle est sous-financée, elle est en retard, donc elle n'est pas productive. Et c'est ça qu'ils vont trouver comme justification. Ça ne va pas assez vite. Ben oui, mais mettez plus d'argent dans la justice, alors, ou les priorités. Et donc, il dit non, non, les Antifa, Sami Doun, tout ça, Code Rouge, sont des terroristes. Alors, donnez-moi un fait concret où ça a posé problème de violence en Belgique. Zéro. Et donc, non, c'est Sami Doun, les Codes Rouges, Antifa, c'est des contre-pouvoirs. Et donc, quel va être le meilleur moyen de les faire taire? C'est les dissoudre. Déjà, comment dissoudre Antifa? Mais aussi, ça va faire peur aux autres. Ceux qui pensent n'avoir rien à se reprocher vont commencer à dire « Ouh là là, c'est dangereux de faire ça. Un ministre peut. » Et donc, on va s'auto-censurer. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a vraiment une auto-censure de se dire ben, « On va faire les choses en bonne et due forme. On va bien demander l'autorisation de la police. Ah, on ne peut pas aller là. Ok, désolé. Ouais. »
Ou alors, on fait les choses, on se met.
Oui, c'est ça. On se met aussi. À nos risques et périls. Voilà. À nos risques et périls, en espérant avoir le soutien des autres, quand après, on se retrouve derrière les barreaux ou derrière n'importe quoi. Et la plupart du temps, ça va. Mais voilà, pour revenir sur la question de réforme du chômage, on a fait une action qu'on ne pouvait pas faire. On est allé au Parlement. C'est une zone interdite. Et c'était quand je dis nous, c'était pas la Ligue, c'était des individus. Et il y avait des gens qui sont issus de la Ligue, des gens qui sont issus des syndicats, qui sont issus d'associations des aînés. Et on est allé au Parlement, dans l'arène du Parlement, jeter, alors c'est pas méchant, hein, 200 feuilles de sécurité sociale ensanglantées. Parce que voilà, les différentes associations disaient « Non, 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 on ne va pas faire de la désobéissance civile dans le Parlement, c'est quand même un lieu sacré, etc. On va faire une manif à l'extérieur. » Mais nous, on a dit, on était 15. Non, mais nous, on veut le faire et on ne vous demande pas de nous défendre. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été couvert médiatiquement. On a été mis sur le côté pendant une heure.
Tu dis que ça s'est extrêmement bien passé, mais il n'y a pas de suite de ça.
Non, mais bien passé sur le côté peur. Sur le côté peur et de dire « Mais sinon, on a pu faire ça, il nous est rien arrivé. Vous pouvez faire un truc un peu plus costaud encore. » La police militaire ne savait pas quoi faire de nous. On dit « Bon, ben, on va appeler la police. Ben, vous êtes la police. Oui, enfin, bon, la vraie police. » Et puis, en fait, ben, oui, vous êtes en ordre d'identité. Ben, voilà, ne leur faites plus, quoi. Donc, voilà, à un moment, ce n'était pas pour arrêter la loi. On savait qu'elle allait être votée. Mais évidemment, c'est un truc de sensibilisation, de montrer voilà, ce qui se passe et ce qui est scandaleux. Ce n'est pas juste le problème du chômage. Et, si j'avais bien une conclusion là-dessus, c'est la sécurité sociale qui s'effondre de toutes parts depuis 20-30 ans, alors que c'était quand même une grande victoire. Et on a fêté les 70 ans de la sécurité sociale, je pense, il y a peu.
Et quoi, ça veut dire quoi que c'est vrai que c'est énorme, en fait, comme nouvelle règle. Ouais. la sécurité sociale limitée, quoi. Ouais. Mais quoi, ça veut dire quoi? Plus de pauvres, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que le principe de solidarité, parce que le CPS n'est pas un principe de solidarité, hein, c'est pas une assurance, le CPS, c'est vraiment une aide sociale avec l'argent qu'on a. Ça a un budget parmi d'autres. Le principe de la solidarité financière, mais aussi de principe, qui est le principe de la sécurité sociale au niveau maladie et autres, les pensions, n'est plus prioritaire pour le gouvernement, la majorité parlementaire actuelle. Il n'est plus prioritaire. Il est déjà l'allocation familiale, on sait qu'elle est maintenant plus fédéral, mais il veut faire ça sur d'autres choses. Et donc, c'est de dire, c'était vraiment, la sécurité sociale est créée et si vraiment on tombe entre les mailles du filet et la sécurité sociale, il y a le CPS pour quelques-uns. Maintenant, le CPS devient presque majoritaire. Et donc, c'est aussi une méconnaissance, voulue ou non, de ce qu'est la sécurité sociale, du principe même. Et de dire, mais non, et quand bien même, quand tu consommes, quand tu achètes quelque chose, tu payes une TVA, donc l'argent va à l'État. Je sais que ce n'est pas directement dans la sécurité sociale, mais plein de gens contribuent à l'État et donc sont solidaires. Donc, on contribue. Par contre, où va cet argent? Et ça, c'est la vraie question, quoi. Et je pense que l'auditeur a sans doute la réponse.
Merci beaucoup, Sébastien. C'est la fin, là.
Merci beaucoup, en tout cas.
Deux minutes.
L'invitation.
T'as envie de terminer par quoi? Ou bien t'as dit ce que t'avais à dire
Ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sécurité sociale et où va cet argent? C'est peut-être... C'est la petite question de fin.
Sécurité sociale, et où va cet argent? Cet argent de la sécurité sociale, quoi, qui ne va plus à la sécurité sociale, c'est ça?
C'est ça.
Comme cet argent ne va plus à la sécurité sociale, il va où, c'est ça?
Il va où? Et puis, je veux dire, à un moment, tous les impôts, en fait, les impôts de la sécurité sociale, les impôts sur le travail, les impôts de TVA, l'argent qui est gagné sur le dos des travailleurs, finalement, quand les grosses entreprises l'ont, où il va cet argent? Est-ce qu'il est redistribué dans les travailleurs pour qu'ils aient des meilleures conditions de travail? Pour qu'ils soient plus nombreux?
On dirait que non, je crois.
On dirait que non. Et si vraiment ils ont trop d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des fondations où là ils vont pouvoir décider de où ils vont mettre cet argent plutôt que de simplement le relancer de payer leurs impôts comme ça devrait l'être. Voilà, ça pose ces questions-là, évidemment.
Merci à toi.
Merci à toi.